Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Bugat pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est de zèle.
Bonjour à toutes et tous. Le livre que je vous propose aujourd'hui se passe en 1789. Ah, cette date vous parle. Eh oui, notre bonne vieille Révolution française. Alors, ça n'est pas l'histoire de la Révolution française, bien que, vous allez voir, nous retrouvons dans ce livre les acteurs, beaucoup d'acteurs de cette époque. Non, c'est une histoire dans l'histoire. C'est très intéressant, plein de mystères, de suspense, avec la description aussi de Paris, avec ses ombres et ses lumières, et puis un personnage bien mystérieux dont nous allons parler aujourd'hui avec mon invité. Alors je suis sûre que vous le connaissez, moi j'ai le grand plaisir de le recevoir aujourd'hui, de l'entendre, et je le lis depuis de nombreuses années. Je suis sûre, quand je vais vous dire son nom et nous allons parler, je vais vous énumérer comme ça quelques-uns de ses précédents romans et livres, vous allez dire « Ah oui, bien sûr ». Bonjour Henri Lovenbrook.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour Délivrez-vous pour ces deux ailes, pour votre dernier roman, Le Loup des Cordeliers, aux éditions IXO. Alors, je disais, Henri Lovenbrook, eh bien, c'est l'apothicaire, c'est le rasoir d'Occam, c'est, si je ne me trompe pas, le syndrome Copernic, il doit y avoir également le mystère Vulcanelli, bien d'autres romans que personnellement j'ai lu. J'ai relu il n'y a pas très longtemps l'apothicaire, qui n'a pas pris une ride et qu'il faut lire absolument, et tous les autres. Donc vous êtes un grand auteur connu et reconnu. Alors on vous accueille aujourd'hui pour votre dernier roman, Le Loup des Cordeliers, aux éditions IXO. Alors je disais, c'est une histoire dans l'histoire puisque l'action se passe en 1789, au début de cette Révolution française. On va y retrouver les acteurs de l'époque que vous avez inclus dans votre histoire autour d'un personnage mystérieux qui se promènerait avec un loup qui fait un petit peu justicier. Voilà, j'essaie de résumer un petit peu parce que comme c'est plein de mystères et de suspense, on va pas pouvoir tout dire. Laissez le soin bien évidemment à vos lecteurs de découvrir la chose. Alors, tout d'abord, j'ai envie de vous demander pourquoi avoir choisi cette époque 1789 bien troublée, bien animée dans notre chère belle France.
Eh bien, pour ces raisons-là, justement, parce que c'est une époque qui est éminemment romanesque.
Oui.
Pendant laquelle il y a des trahisons, des destins assez uniques, tragiques souvent, de grands personnages, de grandes figures. Mmh. Donc c'était un contexte qui, d'un point de vue dramatique, était intéressant et passionnant. C'est aussi un contexte historique que on connaît à la fois très très bien,
oui,
parce que c'est probablement celui qu'on étudie le plus à l'école quand on est adolescent,
oui,
et en même temps on le connaît très mal parce que on ne fait évidemment que l'aborder pendant ses études, on n'a pas le temps d'aller en profondeur.
Mmh.
On connaît les grandes lignes, surtout des premières heures de la Révolution. On connaît bien l'histoire de la prise de la Bastille et
Marie-Antoinette et Louis XVI.
Voilà, mais en réalité, c'est une histoire qui est bien plus complexe, évidemment, comme toujours.
Bien sûr.
Et moi, j'avais très envie de rentrer dans à la fois dans le détail. Donc, c'est un roman qui à la fois ne raconte pas la Révolution en premier plan, puisque l'intrigue principale est une intrigue policière,
oui,
on va dire, une histoire de meurtre, etc.
Mmh.
Mais le fond. Et la Révolution d'une manière que j'ai voulu la plus détaillée possible, c'est-à-dire que mes personnages sont tellement plongés au cœur de l'action que le lecteur voit la Révolution et comme moi je ne la voyais pas, c'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé pour réussir à être aussi fidèle à l'histoire.
Oui. Voilà. Justement, on va en parler de cette décortication de l'histoire. C'est très intéressant d'ailleurs parce que, en fait, il y a effectivement l'histoire, ce que l'on connaît en surface. Hein, on parle des acteurs de l'époque, Danton, Robespierre, Desmoulins, mais il y en a d'autres moins connus et qui ont été tout aussi importants. Alors, le début de l'histoire. Alors moi j'ai bien aimé le début de votre livre, tout simplement parce que notre petite jeune fille s'appelle Claudine Fauche, dit Fauchette. Et comme tout un chacun le sait, mon prénom est Claudine. Je me suis dit, ah, ça commence bien. Bon, ça continue pas de la même façon, mais ça commençait bien. Alors, nous avons aussi un héros, Gabriel Joly. Moi, j'ai adoré ce jeune homme plein d'ambitieux qui arrive de sa province et qui a une ambition, c'est de devenir journaliste. Mais pas n'importe quel journaliste. Journaliste, on dirait d'aujourd'hui, d'investigation. C'est quelque chose d'assez nouveau parce que finalement, en cette fin, je dirais, de 18e siècle, c'est surtout les pamphlets, les écritures comme ça à droite et à gauche. Il n'y a pas vraiment de... Les journaux, au moment de la Révolution, c'est quasiment un tous les jours. Il y en a un qui arrive et puis l'autre qui disparaît. Et alors là, c'est nouveau finalement ce journalisme d'investigation, cette idée qu'il a de la chose, Gabriel Joly.
Absolument. D'ailleurs, j'ai un peu triché. En réalité, le journalisme d'investigation n'apparaît que plus tard.
Oui.
Et surtout le terme apparaît plus tard.
Bien sûr.
Mais c'est vrai qu'on est à un moment où le journalisme est en train de changer. D'abord parce que la censure royale tombe.
Oui. Aux États généraux, Louis XVI, Louis XVI fait tomber la censure.
Ouais. Mmh. Ouais. Mmh. Et du coup, la parole se libère. Et on est à un moment. Alors, la presse n'a jamais été aussi active dans l'histoire de France que pendant la Révolution. C'est incroyable. Hein. Il y a des affiches, des pamphlets, des placards, des journaux qui naissent tous les jours. Il y a d'ailleurs aujourd'hui accessible sur Internet quasiment l'intégralité de tout ce qui a été publié. Et c'est monstrueux. C'est des dizaines de milliers de documents. Ouais. Mais voilà, la presse change et donc j'ai imaginé un petit peu avec quelques décennies d'avance, parce qu'en réalité le journalisme d'investigation il n'apparaît qu'au début du 19e siècle. Mais voilà, bon, j'ai imaginé ce journaliste qui prend un peu d'avance sur son temps et qui devient le premier journaliste. Alors il n'appelle pas ça journalisme d'investigation, il appelle ça le journalisme d'enquête.
D'enquête, oui.
Voilà. Ouais. C'est donc une sorte de journaliste policier qui veut résoudre des mystères dans la ville de Paris.
Oui. Alors, il va prendre les choses à bras-le-corps. Dans ce Paris fort bien décrit de l'époque, on entend les bruits, les sons, les odeurs, le bruit des sabots sur les pavés. Ce Paris-là est fort bien décrit. Et alors, donc, il y a des choses qui se passent. Il y aurait un justicier qui serait avec un loup, donc qui agirait dans Paris. Alors, les cordeliers, si ma mémoire est bonne, je crois que c'est un petit peu vers l'Odéon. Ce quartier était appelé les Cordeliers. Hein. C'était un quartier, je crois, il y avait énormément d'artistes. Quartier un petit peu où les intellectuels, les artistes se retrouvaient.
Absolument. En fait, au moment des élections pour les États généraux, Paris a été divisé en une cinquantaine de districts.
Oui.
Et parmi eux, il y en avait un qu'on appelait le district des Cordeliers, qui tenait son nom d'un monastère. Et vous savez, les moines avaient une corde autour de leur ventre, en guise de ceinture, donc on les surnommait les cordeliers, voilà. Mm-hmm. Bref, ce quartier correspond à peu près à ce qu'on appelle aujourd'hui le quartier latin.
Saint-André-des-Arts,
Odéon, etc., jusqu'à le bas du Luxembourg. Mm-hmm. Et c'était un quartier très actif pendant la Révolution. Pourquoi ? Parce que c'était le quartier des intellectuels, des journalistes justement, des imprimeurs, des libraires. Et comme on le sait, la Révolution n'était pas vraiment une révolution populaire, c'était une révolution un peu bourgeoise.
Bourgeoise, tout à fait.
Quand on regarde bien, les grands acteurs de la Révolution sont tous avocats.
Oui, c'est vrai. Danton, Robespierre.
Desmoulins est avocat, Robespierre est avocat.
Ils sont tous avocats.
Archambault, qui était le district le président du district de Cordeliers, était avocat.
Tous avocats.
Enfin bref, c'est énormément d'avocats. Mmh. Et c'est un quartier dans lequel il y a beaucoup d'avocats, il y a beaucoup de libraires. Bref, beaucoup de ces gens qui vont lancer le mouvement de cette révolution, prendre les rênes de la révolution, même si le peuple les suit. C'est d'abord avant tout une révolution bourgeoise.
Oui, tout à fait. Région de bourgeois qui en avait un petit peu marre. Alors, pour faire court, un peu marre de voir l'aristocratie et à lancer le peuple à l'assaut de cette révolution pour prendre un petit peu le pouvoir. Je résume, c'est bien plus compliqué que ça. C'est bien plus complexe que ça.
Mais c'est vrai que la principale raison était en réalité terrienne.
Oui.
C'est-à-dire que effectivement la noblesse s'était approprié depuis des générations les terres,
oui.
Et elle ne bougeait pas parce qu'elle n'était pas vendue. On en héritait.
Mmh.
Et donc, les terres, pendant des générations et générations, restaient toujours dans les mêmes mains. Et la bourgeoisie, qui, elle, avait commencé à s'enrichir par le biais de l'industrie, par le biais...
Du commerce.
Avait envie de pouvoir, elle aussi, s'accaparer les terres.
Tout à fait. C'est ça. Les biens et les terres.
L'un des principaux moteurs de la Révolution.
Tout à fait. Alors, ce qui est très intéressant dans votre roman, c'est que vous incluez les personnages très connus comme Desmoulins, Danton, Robespierre, les héros de l'époque, dirais-je, qui ne sont ni blancs ni noirs, hein. Voilà, ils ont aussi leur face d'ombre. Vous les incluez à cette histoire, ce qui nous permet d'aller beaucoup plus en profondeur, c'est-à-dire que vous vous servez d'eux. Alors, bien sûr, il y a ces meurtres, hein, tout ce qui se passe dans Paris, et Gabriel Joly donc va aller à la recherche de ce justicier soi-disant avec un loup. Mais il y a également ces acteurs que vous incluez dans l'histoire, Marie-Antoinette également, Louis XVI. Il y a deux autres personnages aussi qu'on connaît moins. Alors, il y a Théroigne de Méricourt, c'est ça, voilà, qui a été aussi une grande dame de ce moment-là, une des grandes femmes, une des grandes prêtresses de ce moment de révolution.
Absolument. Elle a même donné son nom à une rue de Paris,
oui,
qui s'appelle la rue de la Folie Méricourt.
Tout à fait. Que je connais bien. J'ai de la famille rue de la Folie Méricourt.
Voilà. Et bien, écoutez, le nom de la rue donne un indice sur la façon un peu particulière dont a terminé la vie de Théroigne de Méricourt.
Oui, tout à fait.
C'est un personnage tragique, mais c'est aussi un personnage brillant et lumineux dans la première partie de la Révolution.
Oui.
On parle beaucoup d'Olympe de Gouges quand on parle des grandes figures féminines de la Révolution. Olympe a eu un petit peu les feux de la rampe ces dernières années. Il y a eu des livres écrits sur Olympe de Gouges. Il y a eu une très belle bande dessinée de Catel. Mais il y avait d'autres personnages féminins importants. Et moi, j'avais très envie de mettre en avant... Dans mes romans, je mets toujours... J'aime bien mettre en avant des personnages féminins un peu solides, un peu profonds.
Et la gente féminine nous en remercie, Henri Lovenbrook.
écoutez, moi je suis entouré de femmes, vous voyez, donc je leur voue un culte. À commencer par ma maman.
Voilà. Ah, bravo, bravo. Je savais bien pourquoi j'aimais bien vous lire et que j'aimais bien vos livres.
et du coup, j'avais envie un peu de rendre hommage à Théroigne de Méricourt, qui est un personnage très, très, très étonnant. Et pas seulement pendant la Révolution, c'est-à-dire que la vie qu'elle a eue jusqu'à la Révolution est en elle-même déjà un roman.
C'est vrai.
Et ensuite, sa participation à la Révolution était très étonnante. Ouais. Elle était un personnage très haut en couleur. On l'a surnommée l'Amazone. Parce qu'elle portait une robe Amazone rouge. Elle avait un chapeau avec une grande plume.
Oui.
Elle portait un sabre à la taille. Enfin, un personnage comme ça très...
Il y a des beaux portraits d'elle. Il y a des très beaux portraits d'elle.
Alors évidemment, ça a sûrement été exagéré depuis, aussi bien par ses détracteurs que par ses admirateurs. Mais c'était un personnage très étonnant. Beaucoup de ses textes de courrier et des textes qu'elle écrivait, parce qu'elle rêvait d'écrire comme beaucoup de femmes de la Révolution, comme Olympe de Gouges, qui elle, pour le coup, écrivait même des pièces de théâtre. C'est un personnage que j'avais très envie de mettre en scène.
Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que au travers donc de ces personnages et de Gabriel Joly, et puis de ce cordelier, du loup des cordeliers, on rentre vraiment, c'est-à-dire vous avez associé cette enquête à l'histoire de la Révolution, les choses s'en mêlent, s'embriquent bien les unes aux autres. Mais d'où vous est venue cette histoire du loup des cordeliers? Parce que c'était quand même une époque, on disait, bousculée, assez romanesque, où il y avait l'amour, l'amitié, la haine, la gloire, tout y est effectivement pour faire une époque romanesque, mais enfin aussi terrifiante. Hein, ça a été quand même assez sanglant pour beaucoup. Mais d'où vous est venu le loup des cordeliers, l'histoire, l'idée?
Écoutez, honnêtement, je ne sais pas. Les idées des romans, vous savez, nous arrivent en général sans qu'on puisse vraiment l'expliquer. Et puis ça ne se fait pas en une seule fois, c'est plusieurs idées qui s'accumulent, et je ne me souviens pas trop, je ne sais plus. Alors évidemment, moi j'ai toujours Dans tous mes romans, je fais toujours un clin d'œil au loup. Je ne sais pas si vous avez remarqué.
Oui.
Par exemple, le héros de L'Apothicaire s'appelle Andréas Saint-Loup.
Andréas Saint-Loup, oui.
Le héros de mes thrillers ésotériques s'appelle Harry Mackenzie, et Mackenzie, c'est une espèce de loup. Et ma carrière, je l'ai commencé avec deux trilogies qui s'appellent La Moira et Gallica et qui racontaient des histoires de loups. Enfin bref, il y a toujours des loups dans mes livres, parce que c'est un animal, presque un animal totem pour moi. C'est un animal pour lequel j'ai une fascination, pour plein de raisons, et aussi des raisons, on va dire, philosophiques, parce que je trouve qu'il représente des choses qui me sont très chères. Et donc, je sais pas, j'avais envie de nouveau de revenir avec un loup dans ce roman. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu de vrai loup dans mes romans, que j'avais que des clins d'œil. Cette fois-ci, je me suis dit, allez, il y a un loup qui va revenir. Et tout est parti de là, je crois. Mais je sais plus trop, je ne sais plus trop.
Bah, en tout cas, on est très attaché à celui des cordeliers et surtout à l'histoire et à tous ces personnages. Voilà. Bah, ce que nous savons, c'est que nous allons faire une petite pause musicale et nous nous retrouvons tout de suite après.
Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes rugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger vos fils, vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, le sang impur abreuve nos sillons.
Nous retrouvons sur l'émission Délivrez-vous pour ces deux ailes avec Henri Leuvenbrouck pour son dernier roman Le Loup des Cordeliers aux éditions Ixo. Alors nous sommes donc en pleine Révolution française. Alors il y a aussi un personnage qui va s'évader de la Bastille. Et on sait que pour s'évader de la Bastille, il fallait quand même être assez costaud. Moi j'ai trouvé ça assez original. Vous avez eu dans vos documentations beaucoup d'histoires comme ça de personnages qui s'échappent de la Bastille?
Non, il y en a eu qu'un. Il y en a eu qu'un
et
seul.
Oui. Mais
non, encore une fois, là, on est dans la fiction.
Bien sûr.
Personnage-là, je l'ai inventé. Mais non, on s'est échappé très difficilement de la Bastille. Il y en a eu qu'un seul. En revanche, ce qu'on sait peu, c'est que cette malheureuse Bastille a, si elle n'avait pas été attaquée et si elle n'avait pas tombé, si elle n'était pas tombée pendant la Révolution, elle serait tombée quelques mois à peine après, puisque le roi Louis XV avait, Louis XVI, pardon, avait prévu de la détruire.
Et oui.
Il avait prévu de détruire la Bastille et de la remplacer par une statue de lui-même.
De lui-même.
Et d'appeler cette place la place Louis XVI, en toute modestie. Donc, c'est le paradoxe de la Révolution, c'est-à-dire que les Parisiens près de la Bastille, comme un symbole, en espérant en libérer une foule de prisonniers. En réalité, ils n'en trouvent que sept, puisque la Bastille vient... on a commencé à vider la Bastille de ses prisonniers et on se prépare à la détruire. C'est devenu une vieille prison qui n'a quasiment plus d'usage.
Oui, et vieille, humide et franchement ensuite en plus très mal entretenue, donc qui a tendance un petit peu à s'écrouler de part et d'autre. Alors, vous parlez...
Mais avec ce paradoxe que les prisonniers finalement n'y étaient pas si maltraités. Alors, on laissait courir les gens noirs sur la Bastille pour faire peur aux Parisiens,
mais
des épouvantails.
Oui, mais
en réalité, les prisonniers qui y étaient...
Ils n'étaient pas trop maltraités, c'est vrai.
Ils ne l'étaient plus à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a eu une période très, très noire et très sombre de la Bastille. Mais dans les années 1780, il n'y a quasiment plus personne. Il reste très peu de prisonniers. Les derniers prisonniers qui sont là sont soit des fous, soit plutôt des bourgeois. Il y avait le marquis de Sade qui était enfermé quelques semaines avant. Hein. Il fait partie des prisonniers qui ont été transférés de la Bastille, mais quelques jours avant la prise de la Bastille.
Oui. On dit aussi que le masque de fer y a été enfermé avant d'être emmené en Savoie.
Absolument.
On le dit.
Voilà.
On le dit aussi.
Et les derniers prisonniers n'étaient pas si maltraités que ça. Ça leur arrivait régulièrement de déjeuner avec le gouverneur. Ils avaient des cellules plutôt... plutôt correct par rapport à ce qu'il y a eu précédemment. Quand la Bastille était encore un fort redoutable.
Oui. Alors, dans votre livre aussi, vous parlez de la franc-maçonnerie, parce qu'on peut supposer qu'elle a joué quand même un rôle important. Et je crois que c'est une organisation qui s'appelle les Neuf Sœurs.
C'est la loge des Neuf Sœurs était une des loges les plus prestigieuses à l'époque de la Révolution, puisque c'était la loge qui avait initié Voltaire, effectivement. Et oui, dans le roman, je mets beaucoup en scène plusieurs acteurs de cette franc-maçonnerie de l'époque, à la fois pour démystifier un peu la légende selon laquelle la maçonnerie a pris une part active à la Révolution, ce qui est totalement faux. C'est le complot maçonnique dont on parle au sujet de la Révolution, il est grotesque, puisque en réalité, il y avait autant de maçons qui étaient en faveur de la Révolution que de maçons qui étaient contre
la Révolution.
Il y avait beaucoup d'aristocrates au sein de la franc-maçonnerie à l'époque et qui étaient totalement opposés à ce mouvement. Mais c'était une société de pensée très active à l'époque et où donc se retrouvaient beaucoup de penseurs de l'époque de la Révolution. Donc il y avait de grands scientifiques, de grands penseurs, et donc c'était intéressant pour moi de pouvoir les mettre en scène et puis de pouvoir montrer un peu le visage de cette maçonnerie de la fin du XVIIIe siècle.
Alors l'idée du justicier aussi qui semble sévir dans Paris, comment dirais-je, c'est un parallèle j'ai trouvé assez intéressant parce que moi j'avais l'impression, alors d'un côté il y a la Révolution avec tous les acteurs dont on a parlé, à qui vous donnez un rôle finalement dans votre roman, en joindre la réalité et la fiction, et puis ce justicier qui commet aussi des méfaits. J'ai envie de dire qu'il y a quelque part deux révolutions dans votre histoire. Il y a notre histoire et puis la révolution de ce héros, Gabriel Joly, qui va changer les choses et au travers de ce justicier, va tenter aussi, on le disait, d'installer quelque chose de nouveau, une autre forme de pensée, d'agir, une autre forme de journalisme aussi, dirais-je. Donc j'ai trouvé que c'était un parallèle et en même temps un fil rouge très intéressant.
Oui, absolument, mais... C'est-à-dire que le héros se révolte un peu contre le journalisme très consensuel et inféodé à la royauté qui était celui de la presse quotidienne de l'époque. Il faut savoir que la France était très en avance. Paris a été la première ville d'Europe à avoir un quotidien qui était le Journal de Paris. Et ça a été une véritable entreprise de presse. Mais il y avait aussi beaucoup d'autres journaux qui paraissait, alors avec une périodicité moins grande, mais voilà, grande presse, notamment à Paris, mais à travers toute la France, mais une presse qui était très consensuelle, parce que pendant longtemps soumise à la censure royale, donc ce n'était pas une presse, on va dire, très engagée, et très objective. En revanche, les pamphlets, eux, l'étaient. Et mon héros, lui, est un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'il trouve ça dommage que ce soit les pamphlets et les affiches et les placards qui aient la parole la plus libérée, sachant qu'ils ne sont en général pas écrits par des journalistes professionnels. Et il trouve ça dommage que les journalistes professionnels, eux, ne puissent pas avoir une parole plus libre. Alors moi, évidemment, j'y glisse discrètement une petite critique de ce qu'on appelle aujourd'hui les fake news et qui pullulent sur Internet, c'est-à-dire aujourd'hui...
Le pire comme le meilleur, dirais-je.
N'importe qui fait de l'information. Et fait passer plutôt de la propagande pour de l'information. Voilà, et on a un peu perdu le respect qu'on pouvait avoir pour le journalisme professionnel, c'est-à-dire le journaliste qui vérifie ses sources, qui peut les donner et qui prend le temps d'analyser l'information plutôt que de nous annoncer en une minute que Xavier Dupont de Ligonnès a été arrêté.
Oh, voilà. Ça. Vaste histoire aussi, et bon, ça c'est encore autre chose.
Ce qui est très drôle, c'est que pendant cette époque, il y a ce phénomène des fake news et qu'on appelle ça les fausses nouvelles.
Les fausses nouvelles,
c'est-à-dire,
oui. On n'a rien inventé, hein. Nous n'avons rien inventé.
On n'a rien inventé. Non. À la fin du XVIIIe siècle, les Français se plaignent des fausses nouvelles, notamment par le biais des placards qui sont affichés au Palais Royal.
Affichés sur le Palais Royal, oui.
Voilà, et où les gens inventent des nouvelles terrifiantes qui
voilà. Et les crieurs de rue.
Et
les crieurs de rue aussi avec les pamphlets et les feuilles à la main qui crient à tout va les nouvelles bonnes ou mauvaises, fausses ou vraies. Aussi.
Voilà. Il y avait aussi des vrais.
Voilà. Alors, moi, ce que j'ai apprécié aussi, enfin, dans vos livres en général et celui-là en particulier, c'est que vous savez amener, c'est-à-dire, on s'assoit, on prend votre livre, on se dit, ah, je vais passer un bon moment, et puis finalement, dès les premières pages, on se dit, ouïaïaï. Et tout au début de l'interview, je parlais de cette Claudine Fauche, dit Fauchette, qui doit aller faire une course pour sa maîtresse. Il fait nuit, c'est le soir, elle n'est pas très tranquille. Et alors vous dites, ah bah tiens, bon bah voilà. Et puis au fur et à mesure, bien sûr on va rien dire, mais au fur et à mesure des pages, je me suis dit, ouïaïaï, ça commence fort, cette pauvre jeune fille. Vous savez, j'ai toujours trouvé dans vos livres l'art et la manière d'amener la chose, c'est-à-dire on part plus ou moins tranquillement et puis ça va comme ça. Moi je me suis dit, mais il doit pas avoir se faire peur aussi Henri Lovenbrook quand il écrit.
En tout cas, j'aime me surprendre.
Oui, ça.
On me dit souvent que mes romans sont très différents les uns des autres au niveau des sujets que j'aborde.
Oui.
C'est vrai que j'ai fait du fantastique, j'ai fait des romans historiques,
c'est
j'ai
vrai.
Fait du polar, j'ai fait du thriller, j'ai fait des romans tout court. Et la raison, c'est que j'ai toujours peur de la lassitude qui pourrait s'installer, de la routine, et donc j'ai besoin de me surprendre dans les livres. J'ai besoin aussi de découvrir. Autant que le lecteur, moi j'aime. Pour moi, un roman, c'est l'occasion d'apprendre moi-même et puis ensuite de transmettre ce que j'ai appris à des lecteurs. Et donc là, par exemple, j'ai lu 70 ouvrages sur la Révolution.
Oui, ça je me doute, une belle documentation. Oui, c'est sûr.
De presse, etc. Mais voilà, et j'ai appris et je me suis amusé en apprenant tout ça. Je me suis régalé en apprenant tout ça.
J'imagine.
Et donc après, c'est un plaisir de le transmettre à un lecteur. Et pour moi, le vrai plaisir d'un roman, c'est ça. C'est-à-dire que si je ressors du livre en ayant moi appris quelque chose et en ayant offert...
Vous dites que le lecteur, ça va être pareil pour le lecteur, bien sûr.
Voilà. Alors j'aime bien aussi le surprendre, j'aime bien faire des farces.
J'imagine. Mais au-delà de cette grosse documentation, bien sûr, qui vous a été nécessaire, que vous avez certainement accumulée et fait tout au long de ces années, est-ce que vous êtes aussi baladé dans ces lieux et en ayant ces images à l'esprit de votre livre, de votre roman et de ces personnages et des actions qui s'y sont passées?
Oui, bien sûr. Alors, j'ai la chance d'habiter tout près, puisque je suis parisien de naissance. Mm-hmm. J'ai toujours vécu à Paris, donc c'est un théâtre que je connais très bien.
Oui.
En particulier le quartier dont je parle, qui est le quartier de l'Odéon, tous les écrivains et tous les éditeurs connaissent par cœur.
Oui.
C'est notre quartier en réalité.
Tout à fait. Tout à fait.
Mais oui, je me suis amusé à me promener, et évidemment, essentiellement, j'ai passé beaucoup de temps dans le cours du commerce Saint-André, dans lequel se trouve l'essentiel de l'action de mon roman.
Absolument.
Et en particulier au Procope.
Oui, le fameux café
debout.
Procope.
Alors,
toujours debout.
Oui. Il a changé aujourd'hui ce café qui était là.
C'est l'un des plus vieux de Paris.
C'est l'un des plus vieux de Paris. C'est celui où se retrouvaient tous les intellectuels, tous les écrivains, tous les dramaturges.
Oui.
C'est celui où on raconte que Voltaire allait, que D'Alembert et Diderot ont commencé à écrire leur encyclopédie, etc. Donc ce café existe toujours. Il a beaucoup changé. Aujourd'hui, c'est devenu un café touristique et plus du tout un café littéraire, malheureusement. Physiquement, on s'y sent quand même.
Il y a une âme.
Il y a une âme.
Il y a une âme.
Alors maintenant, j'aimerais je voudrais réhabiliter en tant que café littéraire, parce que pour l'instant, on y trouve essentiellement des touristes.
Oui, c'est vrai. Mais il y a un endroit où on rencontre encore quelques artistes, c'est la Closerie des Lilas. Moi, j'aime bien y aller. J'aime bien y aller de temps en temps.
Alors, qui est moins ancienne.
Procope, c'est vrai.
Qui n'existait pas sous la Révolution.
Non.
Mais effectivement,
qui n'est pas inintéressante.
Oui. Culturelle qui est toujours active.
Oui. En tout cas, ça a été un vrai plaisir de vous recevoir avec ce Loup des Cordeliers aux éditions Ixo. C'était un vrai bonheur. Je vous remercie infiniment. Je suis sûre que dans vos malles, cartons et tiroirs, il y a déjà d'autres pages et d'autres histoires à nous raconter très prochainement. J'en suis sûre.
Je travaille sur la suite, justement.
Voyez. Ça, c'est une bonne nouvelle. On va retrouver Gabriel Joly.
Ah oui, absolument.
Super. C'est bien. Les personnages récurrents comme ça, moi j'adore. C'est super. Et ben en tout cas, merci infiniment Henri Lovenbrook, le Loup des Cordeliers aux éditions Ixo. Je vous souhaite une bonne fête de fin d'année et puis sachez que ce micro vous est définitivement ouvert. Donc je vous dis à la prochaine fois pour la suite du Loup des Cordeliers.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir. Voilà, c'est fini.
Ok, super.
Merci à vous en tout cas.
Et ben c'est moi qui vous remercie, merci beaucoup.
Et puis je vous dis à la prochaine fois pour la suite alors.
Ouais.